FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 27 octobre 2022, c'est l'événement Capitales Vertes Européennes aujourd'hui et demain au Palais des Sports de Grenoble. Allez, les 17h, comme annoncé précédemment en début d'après-midi, nous voici de retour, toujours en direct depuis le Palais des Sports de Grenoble, avec une bonne partie de l'équipe News FM. Greg, Sana, Benja la Technique, merci à vous les gars d'être toujours là, fidèles au poste. Et donc on va enchaîner avec un nouveau plateau. Alors on rappelle quand même à nos auditrices et auditeurs pourquoi on est au Palais des Sports en direct, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc c'est l'événement Capitales Vertes Européennes, aujourd'hui et demain, capitale d'aujourd'hui parce que c'est Grenoble, la capitale verte de cette année 2022, et les capitales vertes de demain, 2023 c'est Tallinn qui a déjà été désignée. Et il va y avoir à 18h ici au Palais des Sports la désignation, la cérémonie de désignation de la capitale verte pour l'année 2024. Il y a deux villes qui sont en lice.
Exactement, il s'agit de Cagliari en Italie et de Valencia en Espagne.
Voilà, et puis il y aura aussi la désignation de la feuille verte 2024, ce sont le prix pour la ville de moins de 100 000 habitants, plus de 20 000 habitants, donc qui est récompensé par ces titres. Ça récompense les villes qui ont des programmes importants, ambitieux en matière d'écologie, de protection de l'environnement, de transition énergétique, etc. Voilà. Alors pour en parler, évoquer un petit peu le sujet, nous accueillons deux invités. Nous avons tout d'abord Klaus Abfast. Bonjour Klaus, bienvenue parmi nous. Donc vous êtes conseiller municipal à la ville de Grenoble. Vous êtes délégué sur les questions qui concernent la montagne.
Et la Tour Perret et la Bastille, justement le lieu totem de la capitale verte.
Eh ben voilà. Et puis à vos côtés, il y a Pierre Véry. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Donc Pierre Véry, vous êtes vice-président de Grenoble-Alpes Métropole et en charge notamment des questions relatives à l'air, au climat, aux énergies. Donc tout ce qui concerne cette exposition, puisque je ne l'ai pas cité non plus, mais il y a cette grande exposition ici au Palais des Sports pour faire le point sur l'ensemble des questions qui préoccupent ces questions de transition. Voilà, donc ma première question à vous deux, messieurs, tout d'abord, même si l'année 2022 n'est pas terminée, il reste encore deux mois pendant lesquels Grenoble est la capitale verte européenne, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2022 sous le signe de la capitale verte grenobloise ? Klaus ?
Je crois que c'était une année qui s'est passée un peu différemment que j'avais imaginé. Quand on pense capitale verte, capitale, on pense à des grands événements, des manifestations, des tonnes de touristes qui viennent ou des délégations. Et finalement, ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus intéressant parce que c'est à Grenoble et pas seulement à la ville, mais tout autour que beaucoup de monde se mobilisait pour être vraiment plus vert que d'hab. C'est-à-dire pour lancer des projets, on appelle ça des défis, et pour accélérer les transitions. Donc on a peut-être eu, on n'a pas été la capitale en termes de visiteurs extérieurs, en termes de ce que je dirais flux de touristes, mais de toute façon ça émet du CO2. Mais on est vraiment les meilleurs en France en accélérant la transition vers un meilleur avenir.
Pierre, de votre côté ?
Je rejoins mon ami Klaus, avec lequel nous étions pendant le mandat précédent sur les bancs de l'hémicycle de la métropole, qui aujourd'hui, la métropole, Grenoble-Alpes Métropole, comme le disait Klaus et comme vous le disiez, détient pratiquement 80% des compétences autour du climat. Mais bien évidemment, la ville-centre avait initié des démarches depuis près de 40 ans, j'ai envie de dire, c'est pas d'aujourd'hui que date, je regardais de quand datait le premier tramway, c'était l'un des premiers en France, c'est 1987, la première ligne de tram, les pistes cyclables, c'est plus de 50 ans. Donc moi, ce que je retiens de cette année, c'est en fait l'engouement de gens, d'associations, d'entreprises, plus de 700 événements, plus de 330 défis. Hein, on va rentrer probablement dans le détail avec vous. Mais c'est l'engouement, en fait, du monde associatif, du monde de l'entreprise, des citoyens, tout simplement, qui découvrent à cette occasion tout ce que fait la ville-centre. On a toujours besoin d'une locomotive hein, en matière d'innovation, mais tout ce que fait aussi la métropole pour accompagner, bien évidemment, le changement climatique, parce que l'on sait que de par sa situation géographique, eh bien, à Grenoble, les 2 degrés d'élévation de température sont déjà atteints. Et donc, il y a urgence à innover, il y a urgence à se mobiliser, et c'est en fait l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pendant une année. Donc, je rejoins Klaus. Pas de grands événements, de grandes migrations de touristes, comme le dit Klaus, qui aurait amené du CO2 ou des déplacements dont on ne veut pas forcément, mais par contre une mobilisation de beaucoup, beaucoup d'acteurs.
Donc vous considérez que, tous les deux, que cette année 2022, ça a donné un petit coup de boost pour l'ensemble de la région, la grande région grenobloise, à travers une mobilisation plus accentuée de différents acteurs. Vous avez cité les associations, les collectivités, les institutions, le monde de l'entreprise. Vous avez senti qu'il y avait une mobilisation plus grande ?
Très clairement, hein, vous aviez les 3 institutions, hein, la ville-centre, bien sûr, le département, hein, donc plus d'un million d'habitants dans le département de l'Isère, la métropole, et c'est près de 460 000 habitants. Donc les institutions mobilisées, mais vous me direz, c'est normal que les institutions soient mobilisées sur ces compétences qui sont les siennes, mais des associations, plus d'une trentaine d'associations, plus de 200 entreprises mobilisées et des citoyens, hein, des défis où les citoyens se sont mobilisés pour dire ben voilà, moi je peux apporter ma pierre à l'édifice. Donc oui, il y a eu une mobilisation générale dans notre microcosme et des territoires voisins et ruraux également. Donc c'est vraiment, hein, de ce point de vue-là, une réussite, hein, à n'en pas douter. Et c'est surtout, ça a permis de mieux communiquer, de montrer finalement à nos voisins ce que nous faisions déjà depuis un grand nombre d'années. On nous le dit souvent, vous ne communiquez pas assez, vous les institutions. Il faut dire ce que vous faites, parce qu'effectivement, à Grenoble, on fait des choses depuis très longtemps.
Et je rappelle, il y a 6 mois, ou il y a 7 mois, on portait encore les masques. C'est-à-dire, nous sortons de Covid, et il y a beaucoup de territoires où la dynamique que nous avons aujourd'hui à Grenoble, elle n'est pas atteinte. Donc, Capital Verte nous a vraiment aussi beaucoup aidés, avec des petits financements pour des projets, des centaines de projets qui ont eu un petit financement en plus pour une composante capital verte. Ça nous a vraiment permis de mobiliser le territoire après une période de la pandémie très, très dure. Et aujourd'hui, cette mobilisation va vraiment vers un autre monde, vers un avenir qui est plus vert, vers des comportements qui sont plus vertueux. Et donc, nous avons vraiment pu travailler grâce à ces coup de pouce et grâce à ces financements avec les écoles. Il y avait pour des dizaines d'écoles, il y avait des petits financements, mais quand il y a des gamins qui font des choses ensemble, bah c'est merveilleux. Je rappelle les bivouacs à la Bastille qui a permis pour 1600 jeunes et aussi moins jeunes de passer pour la plupart, la première fois, une nuit à la Belle Étoile à la montagne, en toute sécurité. Donc toutes ces petites choses ensemble font qu'aujourd'hui à Grenoble il y a une belle dynamique et que Grenoble est vraiment aujourd'hui une ville où on dirait que la Covid n'a pas eu lieu. C'est aussi grâce à Capital Verte et comme on l'avait dit au début de la pandémie, le monde après sera différent. Je crois pour Grenoble on peut le dire. Le monde après, il est différent.
Parce que, si je peux me permettre, la majorité des défis qui ont été remportés, les projets qui ont eu pendant cette année 2022, c'est des projets qui sont amenés à durer sur le long terme.
Oui, un grand nombre de ces projets sont appelés à durer. Et d'ailleurs, nous discutons actuellement avec la ville, avec le département, pour mettre en œuvre un suivi des différents projets qui ont été lancés pendant cette année Capital Verte. Il y a des projets qui avaient démarré avant l'année 2022. Il y a des projets qui vont se poursuivre après. Et comme le disait Klaus, quand on se rapproche des écoles, la métropole, depuis de nombreuses années, avait lancé ce que l'on appelle les défis des écoles à énergie positive. Où en fait, une classe, avec des gestes simples, hein, on sort de la classe, on éteint la lumière, on leur donne les thermomètres pour mesurer les températures, ce qui fait qu'à l'interclasse, on ouvre les fenêtres l'hiver que 5 minutes et pas pendant un quart d'heure. Et bien avec des petits gestes du quotidien, vous économisez de 8 à 10% d'énergie. Et on sait que l'hiver 22-23 sera terrible en France et en Europe, hein, compte tenu des événements actuels. Hein. Et donc ces économies sont donc primordiales. Elles sont simples à réaliser. Et dès lors que vous mobilisez des enfants dans une école, vous pouvez être sûr que quand ils retournent dans leur famille, ouais. ils apportent leur contribution, ils témoignent, ce sont nos ambassadeurs. Et qui mieux que les enfants, finalement, qui sont écoutés ensuite par leurs parents. Donc ça, c'est un petit exemple de ce qui est fait dans les écoles. Mais il y avait énormément de défis. Il y a un comité des partenaires qui aujourd'hui regroupe plus de 582 structures. Vous vous rendez compte? Des entreprises, des associations. Donc c'est assez phénoménal quand même. Moi, je suis stupéfait de l'engouement en fait autour de cette année Capitale Verte.
Et le label Capitale Verte a aussi permis aux citoyens de voir ce qui est vertueux et bien et d'y adhérer. C'est-à-dire, avec Capitale Verte, nous avons pu donc labelliser des événements, mais aussi des initiatives. Et ce label, donc, c'était quelque chose qui a permis tout naturellement à chaque citoyen de dire, bon, j'y vais, je fais. Comme par exemple la recyclerie sportive. Donc c'est très bien de recycler les matériaux premiers, mais c'est encore mieux de réutiliser, de réparer, de donner une deuxième vie aux objets. Nous, au dernier mandat de la métropole, Pierre et moi, on en a rêvé, et ça c'est devenu réalité en 2022 à une vitesse grand V, parce que ça a été labellisé Capitale Verte, oui, et les gens se sont dit, ah bah, du coup je donne mes baskets et quelqu'un d'autre pourra les porter, ou je donne mes skis et quelqu'un d'autre pourra faire de la glisse avec. Donc ça accélère de bons comportements parmi les jeunes, les enfants, les scolaires, mais aussi parmi les adultes. Et ça va continuer, c'est-à-dire on est Capitale Verte cette année, mais on va entrer dans le réseau des capitales vertes. Donc, on est un peu ancienne capitale verte. Et donc, on va sans doute continuer à surfer ou à travailler le plus longtemps possible sur cette vague d'enthousiasme et de dynamique pour la faire perdurer. Et de toute façon, dans 5 ans, la commission va nous évaluer et elle va vouloir savoir ce qui n'est pas seulement devenu au bout de quelques mois, mais vraiment au bout de quelques années de notre capitale verte.
Alors de toute façon, Pierre Véry, vous le disiez tout à l'heure, Grenoble ça n'a pas attendu 2022 hein, pour mettre en place plein de choses dans ces domaines-là. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le prix lui a été attribué, Capitale Verte 2022, mais ça fait un moment qu'elle est sensibilisée, à la fois la ville, tous ses acteurs et les habitants. Il y a eu un changement important, même un petit séisme au niveau de la politique local, et même avec des ondes qui sont propagées sur l'ensemble du pays, lorsqu'on est passé avec un maire écologiste pour la première fois, c'était pas un hasard, c'est bien que ça reflète la préoccupation de la majorité des Grenoblois. Je voulais savoir un petit peu, Klaus, vous êtes, même Pierre, pourquoi pas seulement Klaus, sur les questions un petit peu d'impact sur notre environnement, puisque Klaus, vous suivez de près toutes les questions qui sont relatives à la montagne. Grenoble est quand même connue pour être une ville polluée, mais avec un environnement montagneux, Vercors, Chartreuse, Belledonne. Est-ce qu'on ressent clairement déjà des effets néfastes sur nos montagnes autour de chez nous? Et quel type d'effets? Alors, il y a la fonte des glaces, des glaciers.
Sur la pollution, c'est Pierre qui va beaucoup mieux parler que moi. D'ailleurs,
c'est
elle
pour
baisse.
Ça que je
Par contre,
la question
sur la
à tous
montagne,
les deux.
il est évident que la pratique de la montagne est en train de changer. Forcément, parce que les courses sur les glaciers qu'on a fait pendant tout l'été dans le passé, aujourd'hui, on les arrête début août, fin juillet. Les deux Alpes qui voulaient ouvrir les skis sur les glaciers le 1er novembre ont reporté. Il n'y a pas de date. Aujourd'hui, il y a une température à la montagne que les fameux canots à neige, on ne sait même pas quand on va pouvoir les allumer. Donc la montagne, elle change. Et il va de toute façon adapter nos pratiques de la montagne et toute l'économie de la montagne qui doit s'adapter. Et c'est des sujets que nous discutons à Grenoble avec les acteurs de la montagne, y compris avec les stations de ski qui ont le plus de mal à s'adapter, mais qui sont pleinement et entièrement conscients. Mais après, nous, les Grenoblois, on peut aussi faire notre part. On peut très bien utiliser les transports en commun. Et dans la capitale verte, l'association Alpla a publié un guide pour aller à la montagne en bus et puis faire une course ou une balade et rentrer depuis un autre endroit avec, parfois de l'autre côté de la chaîne, rentrer avec un autre bus. Et ce sont des balades qu'on ne peut pas faire avec la voiture.
Parce et c'est que gratuit ces balades, ces
les
bus-là
balades. Non, c'est des bus de ville à 1,40€. Donc c'est moins cher ou 1,60€. C'est moins cher qu'avec la voiture, ou si c'est un Trans-Isère, ça coûte peut-être 3€. Donc ce sont des choses de la pratique de la montagne où les Grenoblois doivent aussi s'adapter. réduire notamment l'émission de gaz à effet de serre par la mobilité, en utilisant les transports en commun et les bus et les covoiturages, et aussi réduire par la mutualisation du matériel et par la réutilisation du matériel, parce que beaucoup de CO2 sont aussi liés au textile. Donc là, c'est un travail qu'on entreprend cette année et qu'on va accélérer justement dans les années à venir, parce que les Grenoblois adorent la montagne. Et le club alpin, il a 9000 membres. Et c'est avec eux qu'on travaille en premier lieu.
Alors sur la question de la pollution, j'entends souvent les journalistes nous interviewer en nous disant « Mais oui, Grenoble est l'une des villes les plus polluées de France. » On est quand même très très loin des grands centres urbains comme Paris, Lyon, Marseille, déjà pour parler des trois premières. Il y a d'autres villes, hein, Bordeaux, Toulouse, qui ont des pollutions plus importantes que la pollution de Grenoble. La qualité de l'air s'améliore année après année. Depuis 2 ans, nous sommes redescendus en dessous des seuils réglementaires européens et nous appelons de nos voeux les futurs seuils OMS, hein, qui sont encore plus rigoureux, grâce à la mise en œuvre de la fameuse zone à faible émission, ZFE, véhicules utilitaires légers et poids lourds, hein, donc à destination des professionnels, depuis 2019. Et effectivement, cette politique, elle porte ses fruits. Grenoble et la métropole sont les premières à avoir lancé un plan climat en France. C'était en 2004. C'est le premier à être devenu un plan air, énergie, climat au fur et à mesure des prises de compétences de la métropole. Aujourd'hui, avec des ambitions très fortes, hein, moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 d'ici 2030 et même moins 65% par rapport à l'année de référence 1990, hein, après les accords de Kyoto. Donc ça, c'est des ambitions et des objectifs posés dans le plan climat. Et pour accompagner justement, j'ai envie de dire, tous les acteurs et notamment les citoyens, la métropole a mis en place cette année, pendant l'année Capitale Verte, une convention citoyenne pour le climat, à l'instar de ce qui avait été fait au niveau national. Et qu'est-ce que fait cette Convention citoyenne pour le climat? Elle a rendu son travail la semaine dernière lors d'un conseil métropolitain extraordinaire où elle a fait plus de 200 propositions, 200 actions qui vont aujourd'hui être étudiées, chiffrées par les services de la métropole. Et au mois de mars 2023, nous allons voter, nous allons délibérer dans un conseil métropolitain extraordinaire sur toutes ces actions, c'est-à-dire qu'aucune des propositions ne sera éludée. Celles qui relèvent des compétences de la métropole seront votées par la démocratie représentative, hein, par les élus que nous sommes. Celles qui relèvent d'autres strates, par exemple les communes ou l'État, elles seront renvoyées vers qui de droit. Et sur des questions ou des actions plus complexes, on parle de la gratuité des transports avec peut-être un étalement en fonction des niveaux de revenus des habitants de la métropole. Bah, sur des questions plus complexes, il n'est pas exclu du tout que le président de la métropole et la métropole décident de lancer un référendum autour de ces questions. Donc vous voyez, c'est des questions qui nous préoccupent depuis plus de 20 ans et sur lesquelles nous sommes mobilisés. Et cette année nous permet, un éclairage particulier et montrer en fait aux citoyens que nous avons besoin d'eux. Ils doivent devenir acteurs, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Hein. On lance aussi une étude de neutralité carbone à horizon 2050, et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure.
Donc finalement, si Grenoble a été nommé Capitale Verte 2022, vous deux, ça ne vous a pas surpris?
Ah non, absolument pas. Et j'ai envie de dire, c'est une fierté, hein, pour la ville-centre, sur tout ce qu'elle a fait depuis une trentaine d'années. C'est une fierté pour la métropole et c'est une reconnaissance, hein, du travail que nous effectuons année après année. Hein.
C'était un peu quand même une surprise parce que normalement, on n'y va pas pour la première fois. C'était la première candidature et on a eu le label. Et ça, c'est aussi une première. Donc c'est pour ça qu'on était quand même un peu surpris. Et quand on a donc gagné, je me souviens encore, en 2020, en octobre, on s'est dit « Aïe, maintenant il ne nous reste plus que 15 mois ». Mais je crois, avec la métropole et le département à nos côtés, on a réussi, dans ces 15 mois, à préparer quelque chose qui a tenu la route.
Vous savez, l'Europe a lancé en septembre 2021 un appel à manifestation d'intérêt pour 100 villes climatiquement neutres en 2030. La métropole, c'est aussi pour la première fois à proposer une candidature et elle a été retenue. Donc nous allons travailler maintenant, la main dans la main, avec la ville-centre et puis les 49 communes de la métropole, à la ville climatiquement neutre d'ici 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et là où je vous disais que c'est un sujet très, très, très intéressant, nous essayons actuellement de modéliser les 4 scénarios de l'ADEME. L'ADEME à modéliser pour les élections présidentielles 4 scénarios qui permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050. qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs atteindre la neutralité de carbone en 2050? C'est passer de, aujourd'hui, allez, 11 tonnes de CO2 moyenne produites par les Français à 2 tonnes en 2050 pour tenir les accords de Paris, c'est-à-dire être en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Et le rôle des citoyens, il pèse plus de 50%, plus de 50% dans ces émissions dites indirectes. C'est la façon dont on se déplace, c'est la façon dont on se nourrit, c'est la façon dont on s'habille, c'est en quelque sorte notre mode de vie, notre mode de consommation. Si on continue à acheter des produits qui sont fabriqués en Asie, eh bien les centrales à charbon continueront à tourner en Chine et on continuera à dégrader le climat.
Alors du coup, je rebondis parce qu'on en parlait tout à l'heure justement sur le fait de consommer autrement, de moins polluer, de se déplacer autrement, tout ça. Donc le citoyen à sa part, ça c'est sûr, et la sensibilisation a été quand même assez remarquable depuis quelques années et elle a été faite. La sensibilité maintenant est beaucoup plus accrue qu'à une époque. Et qu'est-ce que, les institutions, comment elles accompagnent, comment elles encouragent aussi de leur côté pour à la fois accompagner aussi à se déplacer autrement, à manger autrement, faire de la récup, tout ça. Comment ces institutions en fait elles poussent les citoyens aussi ou elles accompagnent?
Faut commencer avec les jeunes. Et donc, on peut commencer avec l'école. Aujourd'hui, on sert une à deux fois par semaine un repas végétarien dans toutes les écoles primaires. Et on voit donc qu'un steak en légumineuse, en pois chiche, une falafel, ça peut être délicieux et ça nourrit tout comme un morceau de viande. On fait des activités d'agriculture urbaine pour que les enfants voient ce que c'est un légume, pour qu'ils voient que ça n'existe pas seulement sous forme surgelée ou en boîte. Donc, non, mais il faut commencer là, parce que c'est pour eux qu'on le fait. Et il est vrai, culturellement, pour des personnes qui ont peut-être 40 ou comme moi plus de 60 ans, c'est très compliqué de se dire que la sobriété heureuse, c'est sobre, c'est-à-dire c'est moins. C'est moi et il faut essayer de le faire mieux. Mais la promesse, on fait autant de consumérisme qu'il y a 30 ans et ça sera climatiquement neutre, ça c'est une fausse promesse, c'est pas la vérité. La vérité, elle est bien, la sobriété, ça veut dire moins. Et là, culturellement, nous avons encore, on est très contents à l'issue de la capitale verte de cette année, mais culturellement, on a encore un très long chemin à faire pour que les citoyens s'oriente vers ce qui est bien et ce qui est de qualité, et que même si c'est sobre et très simple, ça peut être mieux que ce qu'on considère comme le luxe et le superflu.
Et tout vient et tout passera par la communication. J'ai trois personnes qui participaient à la Convention citoyenne pour le climat qui m'ont interpellé après le Conseil métropolitain et qui me disaient, vous savez, moi, M. Véry, d'abord, j'étais pas ni écologiste ni informé sur les questions climatiques et environnementales. On a choisi un 120 citoyens tirés au sort, tout genre, tout niveau social, tout niveau culturel, tout niveau d'études confondues de 16 ans à près de 80 ans. Et la plupart nous ont dit... Eh bien, après 6 mois de travail, on a pu écouter des experts. Ils avaient un comité scientifique qui les accompagnait. Eh bien, aujourd'hui, ils me disent tous, on va manger moins de viande. Dès qu'on peut prendre notre vélo dans l'agglomération, on est quand même la ville la plus plate de France, on prendra notre vélo. Je veux dire, il y a une prise de conscience. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Je vous donne deux exemples. On est dans le mois de l'alimentation et de l'agriculture. Et Klaus l'a bien dit. Ça passe par les jeunes, ça passe par les lois Egalim que l'on met en œuvre dans nos écoles et on va plus loin pour essayer d'avoir un deuxième menu non carné. 70% des céréales produites dans le monde servent à nourrir le bétail, donc servent à produire de la viande. Quand on connaît le bilan en émissions de gaz à effet de serre de cette production, alors que les 70% de céréales produites dans le monde, elles permettraient de nourrir la planète entière. Donc on doit s'interroger sur ces questions.
Bien sûr, et c'est pour ça que ma question, elle s'oriente plus vers les institutions au-dessus, parce que le citoyen, lui, ok, 70% de la production de céréales est pour le bétail, c'est pas lui qui le décide, c'est pas lui qui l'encadre, c'est pas lui qui l'encourage.
Et nous, on encourage dans l'agglomération l'économie circulaire, le bio et le bio local. C'est-à-dire qu'on essaye, par exemple, moi je suis maire d'une petite commune, un GR, 7000 habitants. On avait quelques terrains à côté de notre plaine agricole. Dès lors qu'on les met à disposition d'un agriculteur, c'est sous condition, c'est qu'il s'engage à faire du bio. Et ça nous permet, nous, pour en fait accompagner la production de repas pour les restaurants scolaires ou pour les personnes âgées, d'avoir des producteurs locaux. Donc ça, c'est quelque chose que peut insuffler une collectivité. Sur la question de la mobilité, on parle aujourd'hui de la zone à faible émission, tout véhicule, puisqu'elle est rendue obligatoire par la loi, bah on va accompagner. On va d'abord mettre beaucoup d'argent sur la table pour accompagner les changements de pratiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'a pas l'ambition de remplacer un véhicule par un autre véhicule. C'est de diminuer le nombre de kilomètres parcourus pour celles et ceux qui le peuvent. Celles qui ne le peuvent pas, on les accompagnera pour changer de véhicule, sous réserve que le véhicule soit vraiment un véhicule très ancien, parce que là aussi on parle d'énergie grise, en tout cas d'analyse de cycle de vie, et on ne va pas recycler des véhicules qui peuvent encore rouler, ce serait une hérésie sur le plan environnemental et énergétique. Donc voilà, ça nécessite de beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagner, et c'est le rôle des institutions.
Et c'est compliqué d'interdire. Je donne un exemple. Si vous aimez bien le bœuf, il vous en mange 25 kilos par an, c'est exact, à peu près le même CO2 qu'un aller-retour à New York. Donc si vous aimez du tourisme, vous avez là le choix de faire soit l'un, soit l'autre, ou le deux, ou aucun. Mais on ne va pas interdire le bœuf, ni interdire de faire des voyages à New York. Mais il faut
en avion, hein, Klaus.
En avion. mais il faut que les citoyens comprennent qu'en premier lieu, il peut déjà choisir entre les deux s'il avait l'habitude à faire les deux. Et ça, c'est aussi la question sociale, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est au SMIC, les 25 kilos de bœuf et le voyage, le séjour à New York, la question ne se pose pas. Il a ni l'un ni l'autre. Donc c'est pourquoi nous disons aussi que les efforts de la sobriété vont surtout concerner qui ont consommé beaucoup dans le passé.
L'exposition qui a lieu ici, donc sur ces deux jours, baptisée « Ici, on construit la ville en transition » et qui aborde l'ensemble des questions qui relèvent de l'air, du climat, des énergies, des comportements, etc. On parle bien donc de transition. Grenoble est une ville en transition énergétique, en transition écologique. Plus largement, alors transition, c'est jusqu'à quand? Quand est-ce que Grenoble aura achevé sa transition? Alors Grenoble, l'agglo, hein.
On peut dire qu'on n'arrête jamais. En fait, une transition, c'est on apprend en marchant, et puis on apprend, on fait évoluer la ville. C'est grâce à l'innovation, la recherche. Il y a aussi ce triptyque très fort à Grenoble, entre l'industrie, l'université et les institutions, qui nous permettent d'évoluer. Et puis ça nous permet, nous, de corriger nos objectifs. Quand on lance des grands programmes, plan climat, schéma directeur énergie, on s'appuie beaucoup, beaucoup sur les secteurs économiques. Donc la transition, elle concerne les institutions, elle concerne la ville, elle concerne les citoyens. En fait, il va falloir évoluer pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'on a allé une trentaine d'années devant nous, mais 30 ans, c'est peu, finalement, pour mieux et bien vivre à la fin du siècle. Donc ça veut dire que la transition, elle va s'étaler dans les 30, 40, 50 prochaines années. On y va étape par étape. On n'a pas non plus les moyens de tout bouleverser d'un coup. Et comme le disait Klaus, on peut pas tout interdire du jour au lendemain. Donc il faut accompagner, et on va s'appuyer sur les scientifiques, on s'appuie sur les industriels. Les industriels nous ont permis notamment d'atteindre les objectifs en matière de réduction de consommation d'énergie dans l'agglomération, parce que eux, ils y ont un intérêt financier, et sur leur process, ils ont intérêt à produire la même chose, la même valeur, avec moins d'énergie. Donc tout ça, c'est un travail, je dirais, de longue haleine. C'est pas pour demain la fin des transitions, mais on a les deux pieds dedans, et depuis déjà, je le disais, plus d'une décennie. Donc on en parle, et c'est bien qu'on en parle, parce qu'il faut mobiliser. Et les citoyens, comme les institutions, doivent être acteurs de ces transitions.
Et bien sûr, il y a des choses qui relèvent quand même des gouvernements, voire de l'Europe. C'est pourquoi on est capitale verte européenne. Si aujourd'hui on donne des restrictions, on fait vraiment de la réglementation pour les industries, pour le commerce, il faut en parallèle que nos frontières soit étanche à des produits qui ne répondent pas à ces exigences, ou qu'on a une taxation à la frontière, ou pour les colis qui nous viennent de l'extérieur de l'Europe, quand c'est les commerces. Tout simplement parce que, bien sûr, on ne veut pas tuer notre économie avec des réglementations environnementales qui sont vertueuses, mais qui peuvent être, par un dumping, être sabotées par d'autres pays. Donc c'est pourquoi l'Europe est importante, et les gouvernements aussi. Et donc, ce qui a été fait avec la convention citoyenne à la métropole permet de mobiliser les citoyens pour qu'ils encouragent nos gouvernements, parce que ça s'est fait dans les urnes et ça s'est fait aussi dans la rue, pour qu'ils encouragent à aller dans le bon sens, et aussi l'Europe.
Finalement, est-ce que les plus grands enjeux pour la planète, c'est pas au niveau international que ça se pose, puisqu'on le voit depuis un an avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça a des répercussions sur les ressources, gaz, des répercussions en termes d'inflation. La Chine aussi, qui impose souvent des règles particulières dans ses échanges commerciaux. Est-ce qu'au niveau national, local, on est dans une bonne dynamique, et est-ce que c'est pas au niveau international que c'est
là?
C'est
comme Pierre le disait, il faut avancer chemin faisant. Il y aura toujours des événements, que ce soit une pandémie ou cette terrible guerre au cœur de l'Europe, qui vont nous forcer à changer notre approche. Mais autant que pour beaucoup d'Européens, et surtout à l'étranger, on n'a pas le bouclier énergétique, cette évolution, cette explosion des prix du gaz et du mazout pose un grand problème, autant que c'est aussi un levier pour accélérer les économies d'énergie et la transition vers des énergies plus propres, le photovoltaïque, l'éolien, l'électricité verte ou l'hydrogène verte. Donc, il faut essayer de trouver dans ces menaces des opportunités. Et ça, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau local. On va pas résoudre un problème, on va pas résoudre à Grenoble la guerre en Ukraine, mais on peut essayer que cette menace, on l'atténue et on cherche éventuellement là-dedans les opportunités.
Les deux sont nécessaires. Je vais vous donner deux exemples. La France, elle pèse 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et la métropole 2% des émissions nationales. Ça veut dire qu'on pèse 2 pour 10 000 des émissions. C'est pas pour autant qu'il faut rester bras croisés et ne rien faire. Il est clair que si la Chine continue à ouvrir des centrales à charbon une par semaine en ce moment, ça va être compliqué d'atteindre la neutralité carbone pour elle en 2050. Donc on aura besoin du niveau international, c'est une mobilisation internationale qui est nécessaire. Pour autant, les transitions, elles vont passer par les collectivités et par les institutions. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez l'exemple des énergies fossiles aujourd'hui. On a décidé de pratiquement plus utiliser d'énergie fossile, notamment dans le bâtiment. Le gaz va être proscrit très rapidement avec la nouvelle réglementation environnementale 2020. Pour autant, dans l'agglomération, nous produisons du biogaz grâce à la station d'épuration d'Aquapol. Les boues ultimes se passent dans des digesteurs, en fait, et on fabrique avec ça du biogaz. Ça veut dire qu'on peut neutraliser la molécule de CO2 qui a été émise une première fois. Ce biogaz, on l'utilise pour chauffer ce qu'on produit, 30 gigawatts à la station d'Aquapol, ça permet de chauffer pratiquement la ville de Gières. Demain, on pourrait utiliser ce biocarburant pour le mettre dans les transports lourds, les camions très lourds, les bateaux, parce que du coup, on émet plus d'oxyde d'azote, contrairement au diesel, et comme on a neutralisé le CO2, si on met du bio-GNV dans nos réservoirs, on n'émet pas de gaz à effet de serre, parce qu'il a déjà été émis une première fois à la fabrication. Là, l'Europe doit nous aider, parce qu'aujourd'hui, l'Europe a aligné le prix du biogaz sur le prix du gaz. Donc, le prix explose, alors qu'on peut fabriquer du biogaz, et demain, on va en fabriquer grâce à nos déchets alimentaires. C'est aussi des choses qui auraient très bien pu être dans Défi Capital Verte. On ramasse nos déchets alimentaires, les déchets fermentissibles. On va les emmener à la station de Murianet, qui est à côté de Gières. Et l'année prochaine, on va fabriquer 20 gigawatts de biogaz avec nos déchets. Donc vous voyez que on a des compétences, on a des innovations, mais on doit être aidé par l'international et par l'Europe, qui, elle, fixe des conditions de rémunération économique. L'hydrogène, ça a sûrement un vecteur intéressant pour le transport lourd, mais d'ici une dizaine d'années, parce que vous savez qu'aujourd'hui, 97% de cet hydrogène est dit de l'hydrogène grise, parce qu'elle est fabriquée notamment avec la combustion du méthane. On craque le méthane avec des températures à plus de 800 degrés. Donc on produit de l'hydrogène, mais de l'hydrogène grise. Donc c'est pas la solution. Il faut la produire demain grâce aux énergies renouvelables. Mais ça va prendre du temps. Donc il faut y aller progressivement, et on a besoin de règles internationales pour fixer ces règles. Et dernier exemple, où là, c'est la France qui doit faire évoluer sa législation. Aujourd'hui en France, pour sortir un projet d'éolien, il faut 12 ans en moyenne. Pour sortir un projet de photovoltaïque sur les grandes surfaces, il faut 8 ans. Et tenez-vous bien, pour sortir un projet hydraulique, alors qu'on est le département et la région qui produit le plus d'hydroélectricité, il faut 8 ans. Ça veut dire que systématiquement, ces projets sont attaqués par les associations. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut progressivement sortir du nucléaire et des énergies fossiles, il faut accepter de développer les ENR massivement. Et pour ça, il faut peut-être à un moment donné, que l'État prenne les choses en main en disant, voilà, certes, on écoute les associations, on écoute les citoyens, mais à un moment donné, il faut changer de braquet. Autrement, on n'atteindra jamais cette neutralité carbone en 2050.
Greg, on te salue, oui, parce que tu dois nous quitter. Nous, on a encore une petite dizaine de minutes, donc peut-être je souhaitais, pour conclure, revenir sur cette capitale verte 2024 qui va être désignée d'ici un quart d'heure au Palais des Sports. Donc le choix entre la ville italienne de Cagliari.
Sardaigne, donc.
elle emporte votre vote.
Non, mais Klaus. Les Catalans, parce que Valencia, c'est en Catalogne, il y a les deux villes candidates, sont quand même deux villes régionales très marquées. Mmh. C'est intéressant aussi.
Donc, je le disais, Cagliari pour l'Italie ou Valencia pour l'Espagne. Tout à l'heure, je citais aussi qu'il va y avoir désignation de la feuille verte 2024, donc parmi trois villes de moins de 100 000 habitants, mais je n'avais pas cité les villes. Donc, c'est Bistrita en Roumanie, Elsinore au Danemark et Valenje ou Valenje, je ne sais pas comment ça se prononce, en Slovénie. Voilà, ça c'est tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion, puisqu'il y a des délégations italiennes, espagnoles qui sont là, à Grenoble, vous avez eu l'occasion d'échanger un petit
Hier soir, j'ai parlé avec Cagliari, j'ai parlé avec Helsingør, au nord de Danemark, et aussi avec Valencia. Ils sont bien sûr tous très, très confiants, et en même temps, ils sont aussi très contents d'être là.
Et comment vous les sentez au niveau de, justement, ces positionnements en faveur de l'air, du climat, des énergies? Ils sont dans la même lignée que Grenoble, où il y a des petites variantes qui dépendent aussi des choix nationaux?
Alors, ils sont, je crois qu'aujourd'hui, au niveau européen, on a tous un peu les mêmes feuilles de route avec des particularités. Valencia, Cagliari, je pense qu'eux, ils ont aussi une question d'économie de l'eau qui est moins prégnante dans nos territoires, puisque, je le dis souvent, on est au pied des glaciers. Mais malgré tout, ces glaciers fondent. Et on l'a vu, cette année, on a quand même une sécheresse assez redoutable avec des barrages qui sont moins bien remplis que d'habitude, hein, entre 13 et 15% de remplissage en moins. Donc il y a les questions de l'eau qui vont certainement préoccuper ces deux villes. On sait que l'Espagne, hein, dont le sud de l'Espagne est le grenier et le maraîchage de l'Europe, a vraiment des problématiques d'eau souterraine à utiliser. Donc je pense qu'ils vont être positionnés autour de ces questions qui sont des enjeux d'ici la fin du siècle, qui vont être des enjeux très très importants sur le plan humain, parce qu'on sait que la ressource en eau, elle est très disparate dans le monde. Donc je pense que sur ces questions-là, ils vont être très mobilisés. Sur les énergies renouvelables, on a le même positionnement. À Valencia, on a de l'air, à Cagliari aussi, hein, puisqu'on est sur une île. Donc l'éolien peut se développer, l'éolien sur site ou l'éolien offshore. Donc voilà, on est sur les mêmes problématiques. Et voilà, j'ai confiance en ces deux belles candidatures. Alors moi, j'ai un nom à consonance italien, Mezzo Francese, moitié italien, moitié français. Donc peut-être que voilà, mon cœur se pencherait un peu plus vers Cagliari, mais bon, nous verrons bien.
Ce qui est bien, c'est que la capitale verte, elle est le plus souvent, depuis quelques années, une ville de taille moyenne. C'est-à-dire les grandes villes comme Amsterdam, Londres, etc. C'est pas eux, c'est pas elles les capitales vertes européennes. C'est des villes d'une taille où les collectivités ont des leviers et où on peut peut-être agir et bouger plus vite que dans ces très grandes villes où on a quand même des contraintes économiques, des contraintes d'une métropole de 1, 2, 3, 5 millions d'habitants. Je crois vraiment, je suis grenoblois depuis 2007, je crois vraiment dans à Grenoble, à une agglomération de 500 000 habitants, c'est là où on a d'un côté de levier et des forces et un poids suffisant, et en même temps on garde encore cette agilité pour pouvoir être devant les autres.
Alors, ce sera ma dernière question. Je ne sais pas si Cagliari ou Valencia seront à l'écoute de ce podcast, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute en ce moment en direct. Si vous aviez un conseil à donner à la prochaine capitale verte, alors que ce soit Tallinn l'année prochaine, ou bien l'une des deux en 2024.
Alors, quel que soit le lauréat, ce sera un très très beau lauréat. Moi, j'aurais envie de leur dire, ayez confiance en votre capacité d'innovation. Soyez le plus exemplaire dans la communication, parce que c'est ça l'engouement et c'est ça la réussite d'une année capitale verte. C'est de montrer ce que l'on sait faire, c'est de s'appuyer sur les forces vives. Et je sais que ces deux territoires ne manquent pas de forces vives.
travailler avec les jeunes, parce que c'est pour eux qu'on le fait, et surtout essayer d'utiliser, comme nous l'avons fait, d'utiliser la capitale verte comme un levier pour réunir tout le monde autour du même objectif. C'est un formidable levier pour y arriver, à ce que des gens qui avant ne se parlaient pas vraiment, qui soudainement ils sont autour de la table et travaillent ensemble.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci
sur
News
FM
beaucoup.
En direct. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Pierre Véry, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, sur les questions de l'air, de l'énergie, des énergies et du climat, par ailleurs maire de Gières, et Klaus Abfast, conseiller municipal de Grenoble, délégué aux questions relatives à la montagne, à la Tour Perret et à la Bastille. Je l'ai retenu. Merci à tous les deux. Voilà, on va se quitter. Juste le temps de vous rappeler, à vous qui nous écoutez, que cet événement Capitale Verte Européenne, aujourd'hui et demain, ça continue sur au Palais des Sports de Grenoble. Donc là, d'ici, quelle heure il est exactement ? Hop, j'allume 43. Donc d'ici un quart d'heure, il y a cette cérémonie de désignation de la Capitale Verte Européenne 2024. À 18h, à 19h, un spectacle de danse verticale par la compagnie Les Impondérables Kintsukuroi, donc qui va se dérouler également ici au Palais des Sports. À 20h, une visite libre de cette exposition interactive. Ici, on construit la ville en transition. Alors, le spectacle et la visite, c'est sur inscription. Donc, vous pouvez pas venir comme ça, à brûle-pourpoint, puisque vous n'aurez pas été inscrit, vous pourrez probablement pas entrer. Mais demain, ça continue encore pour ce vendredi 28 octobre. L'exposition en visite guidée, ça sera à partir de 10h jusqu'à 15h. Il y a trois parcours qui sont proposés, mais là, encore une fois, c'est sur inscription. Donc, pour vous inscrire, puisque ce sont des groupes de 20 personnes maximum qui peuvent faire un de ces trois parcours en simultané, si vous avez déjà un groupe, eh ben vous pouvez aller sur le site cérémonieofficielle.capitaleverte@grenoble.fr. Je répète, cérémonieofficielle, donc tout attaché, .capitaleverte@grenoble.fr si vous êtes un groupe. Si vous êtes un particulier, il y a une billetterie en ligne, donc il suffit de taper « visite ». Exposition, Palais des Sports, Grenoble, et vous trouverez. Et puis, vous pourrez aussi vous inscrire pour voir ce spectacle, Kintsukuroi, ce spectacle de danse verticale, où là j'ai la voix qui commence à partir, il est temps qu'on boucle cet après-midi. Donc voilà, ça sera à partir de 15h, le spectacle Kintsukuroi au Palais des Sports de Grenoble.
C'est
voilà,
bien,
tout est
c'est
dit.
Bien, t'as bien travaillé, Christophe.
Merci, Sana. Donc, il nous reste plus qu'à saluer nos auditrices et auditeurs.
Tout à fait.
Souhaiter une très bonne fin de journée sur l'antenne de News FM. Et puis, demain matin, Greg revient, fidèle au poste, à partir de 7h pour le Café Grégo. Et toi, Sana, à partir de 16h.
19 avec Sana à 16h, les amis. Allez, pas manquer.
Merci à l'équipe de News. Merci à Binge, à la technique. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 27 octobre 2022, c'est l'événement Capitales Vertes Européennes aujourd'hui et demain au Palais des Sports de Grenoble.